Donc nous allons parler de la sagesse. Pourquoi ? Parce que Jacques en parle. Il nous a déjà dit que la clé pour bien parler, pour commencer à bien parler, bien utiliser nos lèvres, ben ce sont nos pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est en quelque sorte le résumé que l'on pourrait faire, si on devait en faire un, de ce que Jacques nous a appris jusqu'ici. La langue, notre langue, est enfermée dans une cage dont les barreaux sont des dents et le gardien des lèvres. Mais la détenue s'évade malgré tout encore, car ce n'est pas l'intelligence qui peut garder cette cage fermée, c'est la sagesse. Mais bien entendu, pas n'importe quel type ou quelle sorte de sagesse. Et c'est là que nous allons à nouveau rejoindre notre ami Jacques. Et revoilà les questions rhétoriques. Lequel parmi vous est sage et intelligent? C'est bien, personne n'a levé la main. C'est bien. C'était humble, c'est très bien. Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Revoilà donc la sagesse que Jacques nous invitait déjà à demander à Dieu au tout début de sa lettre. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et apparemment, le Seigneur répond à ce genre de prière. J'avais posé la question à l'époque, mais est-ce que nous demandons vraiment souvent à Dieu de la sagesse? Là encore, la question reste ouverte. La sagesse dont parle Jacques vient bien de Dieu, elle est un don de sa grâce. Donc, revoilà la question posée, on avait déjà commencé à y répondre il y a quelques semaines, y aura-t-il plusieurs sortes de sagesse? Bien oui, il y a la sagesse de Dieu d'un côté et la sagesse du monde, comme le monde la conçoit, comme le monde l'offre de l'autre. Et c'est pour cette raison que Jacques va commencer à nouveau par poser une question rhétorique à son auditoire de façon à ce que celui-ci se positionne et surtout comprenne, discerne de quelle sagesse il se revendique, qu'il ne se trompe pas lui-même, si vous préférez. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous se dit qu'il est sophos, en grec, qui vient de Sophia, la sagesse, donc sophos, sage, et épistémon, vous êtes content, hein, intelligent, expérimenté. Après ceux et celles qui se vantaient d'être des enseignants, y en a-t-il parmi vous qui se prétendent sages et intelligents? Tout comme la foi, dit Jacques, la sagesse, c'est très simple en fait, se démontre par des actes. Car la sagesse doit bien entendu être comprise dans son emploi vétérotestamentaire, comme l'Ancien Testament en parle. C'est-à-dire une sagesse pratique de tous les jours qui se manifeste par une volonté de vivre selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Et ce genre de sagesse se voit, se remarque. Cette sagesse-là prend sa source, nous l'avons déjà dit, dans la prière. Il faut demander à Dieu de nous aider à nous comporter avec sagesse dans notre rapport au monde. Que dire, que faire, qu'être par rapport à ceux qui nous entourent. Et aussi, et c'est important de le rappeler, même la demander pour notre rapport à Dieu, pour que nous ayons le bon rapport envers Dieu. Dans la prière d'introduction que j'ai faite, ben on demandait à Dieu, justement, je demandais à Dieu de nous éclairer, de nous dire, de nous montrer, de ne pas l'oublier au quotidien, de ne pas être distrait de lui, selon cette très belle expression qui n'est pas de moi. La véritable sagesse a, comme toute chose, son origine en celui qui est le seul sage. C'est Paul qui dit ça en Romains. Le seul sage véritable, c'est Dieu. Il est donc logique que nous demandions la sagesse à celui qui la possède par nature. On ne peut donc pas être sage sans l'aide de Dieu. Tout comme l'on n'est pas intelligent si notre connaissance n'est pas vécue, elle aussi, avec sagesse. On ne peut pas être sage sans connaissance, il en faut, mais on peut également posséder des connaissances sans être sage. On peut avoir beaucoup de connaissances et ne pas être sage, mais on ne sera jamais sage sans la connaissance. Et quel type de connaissance? Vous l'aurez compris, la connaissance de la parole de Dieu révélée. La bonne nouvelle, c'est que cette sagesse dont parle Jacques et qu'il invite à ses auditeurs et à ses lecteurs de demander à Dieu, cette sagesse-là, être sage, n'est donc pas une question de connaissance intellectuelle. Ça ne demande pas d'avoir un QI de 300. Ça n'est pas une question de grade ou de degré. Une des premières hérésies dans l'Église, même au 1er siècle, c'était cette revendication que faisaient certains de devoir atteindre la connaissance de Dieu par palier, en passant à travers les anges, etc. C'est ce qu'on appelait la gnose. La sagesse se démontre par une vie quotidienne, dépendante de Dieu. Et cette sagesse-là, si on la demande, on la recevra. De cette sagesse-là, tout chrétien véritable peut vivre. Donc par ce mot sagesse, Jacques entend la connaissance de la vérité chrétienne, non en théorie seulement, mais pénétrant et dominant la vie pratique tout entière. Pour le dire autrement, Jacques aurait pu reprendre le terme sagesse et le coller au terme foi dont il a parlé et remettre la même dualité avec cette, vous vous rappelez, hein, cette conversation entre deux interlocuteurs là, qu'il cite en exemple au sujet de la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ben, Jacques pourrait dire montre-moi ta sagesse sans tes œuvres. Montre-moi ta sagesse si elle est véritable par ta vie. Jacques va maintenant préciser les principaux traits de cette sagesse dont il parle. Et ce sera tout simplement le moyen de prouver à ses lecteurs combien peut-être ils y étaient étrangers, et aussi pouvoir justement se repérer. Comment puis-je savoir que je suis sage à la sagesse de Dieu? Ben Jacques va dire, ben vous allez voir, cette sagesse produit certains types de fruits. Ça se manifeste d'un certain nombre de manières. Les versets 13b et 14, qu'il montre par un bon comportement, donc celui qui a cette sagesse, hein, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, ne mentez pas contre la vérité. Donc pour Jacques, la sagesse, le salut doit se voir, se marquer par une vie transformée. Ben, c'est comme la foi qui ne se voit pas si vous ne la rendez pas visible par vos actes. La sagesse, elle ne se voit pas non plus si notre vie ne la démontre pas. Parce que la sagesse est invisible à l'œil nu. Et c'est ici donc que l'on tombe, je l'ai dit, sur les fruits, sur la notion des fruits. Quels sont les fruits de celui qui se dit sage et intelligent? Jacques répond, ce sont des œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Voilà donc les deux fruits. L'humilité et la douceur. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'humilité alors que Jacques n'en parle pas? Ben parce que pour être doux, il faut être humble. On ne peut pas être doux si l'on n'est pas humble. Vous verrez où j'arriverai en disant ça. Le premier fruit, c'est donc l'humilité. Car face à Dieu et confronté aux choses de Dieu, on peut avoir et il faut avoir une certaine connaissance. Vous avez une certaine connaissance des choses de Dieu. Du moins, j'espère. J'en suis sûr. Mais elle sera toujours incomplète de par l'objet même de notre étude. Quand on parle de connaissance de Dieu, c'est Dieu, entre guillemets, qu'on étudie. Comment quelqu'un pourrait-il prétendre tout savoir, tout avoir compris de Dieu? Alors, ça c'est pour Dieu, mais c'est valable pour notre connaissance des autres aussi. Qu'est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je peux comprendre de l'autre? Qu'est-ce que je peux comprendre de moi-même? Et si j'élargis le spectre, qu'est-ce que je peux bien comprendre de l'univers qui m'entoure? Il faut de la sagesse, énormément de sagesse, pour apprendre et apprendre encore de la parole de Dieu et comprendre qu'en fin de compte, on ne sait rien ou pas grand-chose. Que Dieu reste quelque part malgré la révélation qu'il fait de lui-même et ce que l'on peut en connaître au-delà de ce qu'il révèle. C'est la réponse de Dieu aux questions de Job qui, vu les circonstances, vous paraissent pourtant légitimes. Job, il souffre tellement, c'est normal qu'il demande quelque part des comptes à Dieu. Et pourtant, Dieu, j'ai pas tout, ça dure sur 3 chapitres, hein, mais quelques versets quand même du chapitre 38 de Job, là où Dieu va répondre à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» C'est quelqu'un qui souffre qui l'a prié. Hein. « S'impérant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Donc il dit « Job, puisque tu sais malin, tu vas m'instruire, moi qui suis Dieu. » « Où étais-tu quand je fondais la terre ? » « Dis-le si tu as de l'intelligence. » « Qui en a fixé les dimensions ? » « Le sais-tu ? » Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Bon, les mesures, hein, si vous préférez. Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu, donc les anges, poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. C'est étonnant comme réponse tout de même, non? Et sur trois chapitres, Dieu va remettre Job à sa place de créature, qui n'a pas les moyens d'envisager tout le spectre de la connaissance et de la sagesse divine, parce qu'il ne possède pas la sagesse divine. Alors nous en savons un peu plus, beaucoup plus que Job sur Dieu. Vraiment, hein? Ben oui, tout de même. Hein? Les prophètes sont venus... Le Seigneur est venu, s'est incarné. Nous avons la parole de Dieu écrite, la révélation de sa personne. On en sait plus. Mais pas assez tout de même pour demander des comptes à Dieu. Et n'est-ce pas le début de la sagesse, justement, que de craindre Dieu, de ne pas lui faire de procès? Peut-être revendiquons-nous souvent plus que nous ne craignons. Nous ne savons rien, et pour être sage de la sagesse que seul Dieu peut donner, il faut être assez humble pour en être conscient et dès lors demander la connaissance, la véritable sagesse à Dieu. C'est d'ailleurs la raison, la seule, hein, pour laquelle le roi Salomon a prié Dieu de lui donner sa sagesse afin de diriger son peuple. Il savait qu'il ne savait rien, qu'il n'avait pas les compétences pour être dirigeant du peuple de Dieu. Il a donc préféré demander la sagesse de Dieu pour le faire. Puis dit Jacques, il y a un autre fruit de la sagesse qui manifeste la présence de cette sagesse en nous. C'est la douceur. C'est étonnant aussi de voir arriver la douceur à cet endroit-là, me semble-t-il. Ce n'est pas vraiment un fruit dont on a vraiment l'habitude de parler, me semble-t-il. Mais la douceur, c'est la douceur de celui qui sait qu'il ne sait rien, justement. Qu'il dépend pour tout de celui qui sait tout. Ce que Job a fini par comprendre. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ça me fait penser à cet autre psaume, à ce psaume de David, où quand il dit que devant la connaissance que Dieu a des choses, des milliers et des millions de pensées qui habitent l'esprit de Dieu, David dit « ça me dépasse, je ne peux même pas l'envisager ». Pensez simplement aux millions de prières que Dieu entend monter vers lui à chaque seconde. Comment est-ce qu'il fait pour gérer ça? Ça ne vous dépasse pas, vous? Mais c'est bien, parce que ça nous remet à notre position d'être qui l'aime, que Dieu aime, mais qui une créature qui est dépassée par ce qu'est Dieu. Jacques parle de cette douceur aussi, la douceur de celui qui n'a rien à prouver ou à défendre pied à pied, puisqu'il ne sait rien ou pas grand-chose. La douceur de celui qui n'a rien à conserver, car ici qu'il a tout reçu et qu'il peut donc se montrer généreux. La douceur de celui qui sait que tout ce qu'il a et tout ce qu'il possède, y compris lui-même, est en Dieu. Alors là, il y a déjà un solide contraste entre ceux qui sont habités de cette sagesse-là et ceux qui sont habités de la sagesse du monde, parce que les fruits ne sont pas les mêmes. Parce que la sagesse du monde, celle-là, on ne la demande pas. On ne la demande à personne. On se l'approprie en puisant dans sa propre nature. Et quels sont les fruits de cette sagesse et de cette connaissance humaine? C'est ce que Jacques dit. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. C'est la jalousie, l'amertume de celui qui voit un autre que lui en aurait pour sa sagesse ou son intelligence. Parce que mes amis, la sagesse humaine, j'ai lu et je lis encore beaucoup de livres autres que des livres chrétiens, au rapport avec la Bible, parce que parfois c'est intéressant tout simplement de voir qui pense et pourquoi il pense ce qu'il pense. Mais en résumé, regardez un plateau télé, mais avec des intellectuels autour de la table. La sagesse humaine, en définitive, c'est le monde des clans, pas écossais, parce que ça, c'est bien. C'est le monde des oppositions, des querelles sans fin, l'un se réclamant d'une école et l'autre d'une autre. C'est le monde des idées qui se font la guerre. Ils peuvent parfois avoir lu les mêmes livres, ils n'en auront pas la même interprétation. C'est l'école du rabbin Hillel, dont les élèves s'opposaient à ceux de l'école du rabbin Shammai à l'époque de Jésus. Rabbin Shammai qui porte bien son nom quand on l'envisage sous l'angle de la querelle, Shammai. C'était prédestiné comme nom. Ce sont les philosophes grecs qui se lancent des anathèmes. Ce sont les disciples de Jean le Baptiste et des pharisiens qui accusent ceux de Jésus de ne pas jeûner comme eux. Ce sont les chrétiens de Corinthe qui se pensaient plus sages, plus malins, en un mot plus spirituels que les autres, parce qu'ils avaient été baptisés par l'un ou l'autre. Serviteurs de Dieu, rappelez-vous ce que Paul leur dit. L'un de vous se réclame de Céphas, donc de Pierre, l'autre de Paul, l'autre d'Apollos. Et Paul dira, qui sont ces êtres, qui sont ces hommes? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru. Rien de plus, des ouvriers dans la moisson. Bref, la sagesse humaine, c'est le monde de la discorde, de l'intelligence non éclairée par Dieu. Une intelligence qui dès lors est fière d'elle-même et oublie d'être humble, douce et accueillante tout en prétendant détenir la vérité. Dans le monde construit par ces sagesses-là, il est tout à fait possible de dire posséder la vérité et se montrer dans le même temps désagréable, prétentieux et orgueilleux. Les deux sont compatibles. Un homme ou une femme habité par la sagesse de Dieu, ça n'est pas compatible. Cette sagesse-là, la sagesse du monde, voudrait-elle se faire passer pour celle de Dieu ? Elle ne le pourrait pas, dit Jacques, car elle professe des lèvres, mais renie par sa conduite celui qu'elle est supposée révéler. Les deux fruits de la sagesse, selon Dieu, devraient d'ailleurs nous interpeller. C'est là que je voulais arriver, en fait. Ou à tout le moins nous faire remonter quelques souvenirs. Humilité, douceur, ça ne vous fait penser à rien, vous. Où ai-je donc déjà vu ces deux qualités réunies ? Matthieu 11. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Hein. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Je suis doux et humble de cœur. C'est notre Seigneur qui dit ça. Jésus, le sage parmi les sages, le Fils sorti du sein du Père, le Fils engendré par lui, est doux et humble de cœur. Et d'office, il nous dit quelque chose du cœur du Père, qui lui aussi est humble et doux. N'est-ce d'ailleurs pas Jésus que l'on discerne dans ces versets du livre des Proverbes qui parlent pourtant de la sagesse ? Je vous le lis. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles disant « Jusqu'à quand, stupide, autrement dit, homme sans sagesse, vous complairez-vous à des sottises ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Écoutez mes avertissements, voici, je répandrai sur vous mon esprit, avec un E majuscule, et je vous ferai connaître mes paroles. » De nombreux chrétiens à travers les siècles, les pères de l'Église en tête, voient en cette sagesse leur Seigneur Jésus qui proclame la parole de Dieu et qui désire répandre son esprit. L'apôtre Jean, en tout cas, semble avoir eu le livre des Proverbes à l'esprit lorsqu'il a rédigé l'introduction de son évangile. Et j'ai fait un tableau comparatif. Je vous lis le texte de Jean. « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Qui était cette parole ? Le Christ, vous le savez. « Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Eh bien, quand vous comparez avec Proverbe 3, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. D'un côté, la parole créatrice, de l'autre, la sagesse créatrice. Mais ne parle-t-on pas de la même chose ? De la même personne, croyez-vous ? Cette personnification de la sagesse divine en la personne de Christ ne doit pas nous étonner. Après tout, le livre des Proverbes redit un grand nombre de fois que c'est Dieu qui a créé l'univers au moyen de la sagesse. Christ, le Fils étant Dieu, étant le médiateur, l'outil de la création pour tous les écrivains du Nouveau Testament, Paul en tête. Colossiens 1, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, écoutez, hein, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Je vous rappelle que tous les auteurs, mis à part Luc, tous les auteurs du Nouveau Testament étaient juifs et imprégnés de l'Ancien Testament. Et ils ont vu au travers de la sagesse divine si souvent dépeinte dans leur livre sacré, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu. Et nous allons prendre conscience, en continuant notre lecture dans Jacques, que d'autres choses du même type, d'autres termes vont bientôt nous faire penser aussi à une autre personne de la Trinité, mais n'anticipons pas. On reprend Jacques, si vous le voulez bien. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, donc cette fameuse sagesse humaine, hein, qui porte les fruits de notre humanité seulement et pas les fruits que Dieu veut nous voir porter. Elle est au contraire, contrairement à la sagesse de Dieu, terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent dans la paix. La vraie sagesse vient d'en haut, nous l'avons dit. Elle est un don par lequel Dieu répond à la prière. Et en opposition, la fausse sagesse dont se vante l'homme naturel, l'homme sans Dieu, est de ce monde où règnent les ténèbres et le péché. Elle est terrestre. Elle a son origine sur la terre. Jacques l'appelle cette sagesse humaine, animale, littéralement psychique, psouché en grec. Autrement dit, provenant des forces naturelles de l'âme, dénuées de l'Esprit de Dieu, et croissant sur le sol naturel du moi humain dans son éloignement de Dieu. Plus vous êtes, c'est symptomatique, ce n'était pas le cas dans les siècles passés sans doute, mais aujourd'hui en tout cas, plus vous lisez ou vous écoutez les grands intellectuels de notre temps, plus vous vous rendez compte qu'ils sont tous athées. Au plus ils ont de la connaissance, et cette connaissance est réelle d'une certaine manière, au plus ils s'éloignent de Dieu. Jacques ira même jusqu'à dire de cette sagesse qu'elle est diabolique, c'est-à-dire inspirée à l'homme par les influences du prince des ténèbres. L'une a source en Dieu et illumine l'âme humaine, l'autre a sa source en celui qui est menteur depuis le commencement et amplifie la chute en nous, même parfois, et c'est le pire, hein, sous des dehors de religiosité, parce que c'est à des frères et sœurs en Christ que Jacques écrit. Hein. C'est ce qui permettra à Jacques de dire un peu plus loin, nous y viendrons la semaine prochaine, Dieu voulant, que si Dieu ne nous répond pas quand nous prions, c'est que nous demandons pas, nous ne demandons pas en fait, ou nous demandons mal. Ce qui signifie que nous devrions demander, ne demander que ce qui est au ciel, la sagesse de Dieu. Mais ça, je l'ai dit, hein, moi le premier, nous ne le demandons pas très souvent. Et nous nous contentons dès lors de demander ce qui est sur la terre. Toutes des choses que le diable promet depuis la nuit des temps et qu'il a même proposées au Christ lors de la tentation au désert, en Matthieu 4. Toutes des choses que Dieu, lui, n'accorde jamais pour notre plus grand bien. Donc, si je veux être pratique, hein, quand vous passez par des moments difficiles, parce que ça nous arrive à tous, peu importe lesquels, hein, quand vous priez, vous demandez quoi, la plupart du temps, la plupart des gens, mais sincèrement, hein, d'être débarrassé de la situation, alors qu'il faudrait sans doute demander la sagesse de vivre cette situation comme Dieu nous demande de la vivre, et d'apprendre éventuellement ce que Dieu veut nous apprendre à travers cette épreuve. Ça ne nous pose pas de problème, vous savez, à mon sens, hein, de lui dire, moi ça me dépasse ce que je vis, moi je ne vois pas le bout de ce que je vis, j'ai besoin que tu me montres, que tu me donnes ta sagesse pour le comprendre. Il ne sera pas étonné de cette demande, il se réjouira de cette demande et il vous donnera ce que vous lui avez demandé. Voici donc les fruits de la sagesse humaine. La jalousie, l'esprit de rivalité, le désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Ça ressemble tout de même furieusement à ce que le monde dans lequel nous vivons montre et offre. Et c'était pourtant aussi le vécu réel ou potentiel des chrétiens auxquels Jacques écrit sa lettre. Et il écrit justement, sans doute pour que cela cesse, et que ceux qui portent de tels fruits, les fruits de la sagesse humaine, arrêtent de penser qu'ils peuvent porter de tels fruits et se dire chrétiens. Se croire chrétien, s'illusionner de l'être alors qu'aucune beauté spirituelle visible ne découle de leur vie. D'ailleurs, le premier stade de la sagesse humaine, de la sagesse selon Dieu, pardon, si nous la possédons, hein, n'est-il pas de cesser de nous illusionner sur nous-mêmes? C'est quelque part le début de la sagesse. Hein. Par opposition aux fruits de la sagesse du monde, les fruits de la sagesse d'en haut sont, dit Jacques, la pureté, la paix, la douceur, la bienveillance, la miséricorde. Il dit que la sagesse est pure. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'elle est exempte de toute souillure sensuelle, de toute convoitise, et surtout de toute arrière-pensée et de tout motif égoïste. Ensuite, la sagesse est pacifique, autrement dit, elle amène la paix. Elle donne la paix. Le fameux shalom de Dieu, que cet être, dans l'exemple que Jacques avait donné, cet être qui a faim et qui a froid, et que ce chrétien a dit, mais va, shalom, la paix sur toi, en ne lui donnant rien, en ne l'aidant pas dans sa situation. Ici, par contre, celui ou celle qui est habité par la sagesse de Dieu peut offrir le véritable shalom, la véritable paix de Dieu, parce qu'elle est dominée par l'amour qui tend sans cesse à la paix. La sagesse aussi, dit Jacques, est bienveillante, c'est-à-dire modérée, parce qu'elle est capable de céder aux autres, de se défaire de son droit, de renoncer à ses droits. Ce que Paul a dit aux Corinthiens, vous faites appel à des tribunaux en dehors de l'Église pour régler vos problèmes personnels dans l'Église. N'avez-vous pas des sages parmi vous qui puissent trancher vos différends? Et Paul ira encore plus loin en disant, il faudrait mieux que tu sois spolié de ton droit et de tes biens plutôt que tu ne fasses un mauvais témoignage, tu ne rendes un mauvais témoignage vis-à-vis de Dieu. La sagesse est douce, elle cède aisément au bien, elle se laisse toujours convaincre d'un tort ou d'une erreur lorsque la vérité lui le révèle. On vient au miroir de l'Écriture, là. On peut se tromper, on n'est pas parfait. Mais dès que la Bible nous montre que l'on se trompe, bien la sagesse de Dieu en nous accepte cette révélation et modifie son comportement par rapport à ce que la lumière a amené dans sa vie. Elle est pleine de miséricorde, la sagesse d'en haut, et de bons fruits, dit Jacques, c'est-à-dire de bonnes œuvres, toujours prête à répandre la bonne odeur de la grâce, du pardon et de l'accueil en n'importe quelle circonstance. Elle est sans duplicité, elle est libre de tout esprit de jugement et elle est impartiale. Elle ne fait pas de favoritisme, on revient avec la notion de favoritisme, elle ne fait aucun favoritisme. Et enfin, elle est sans la moindre hypocrisie. En d'autres termes, elle est toujours sincère en elle-même et dans toutes ses manifestations. Elle garde cette sincérité. Tous êtres réunis forment une image parfaite de la vraie sagesse d'en haut. En repassant toutes ces qualités, je me suis dit que je n'en avais pas beaucoup. Celui qui possède la vraie sagesse porte ces fruits-là. Et enfin, une dernière affirmation de Jacques dans notre passage, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. L'homme vraiment sage est un homme de paix. Il aime la paix, il incarne la paix de Dieu et l'emmène partout avec lui. Il ne l'impose pas, mais ne s'en départit jamais. Là où gronde la tempête, il apaise les vents. Là où règne la discorde, il amène l'écoute et le pardon. Là où règne la mort, il apporte la vie. Là où règne le diable, il amène le Christ. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Et à quoi nous appelle Jacques si ce n'est justement de discerner si nous sommes fils et filles de Dieu? Un homme habité par la sagesse de Dieu manifeste au travers de sa vie qu'il est un fils de Dieu. Nous devons ressembler à notre Père. Il y a parfois des personnes, je pense, vous connaissez, hein, je pense au fils d'un ancien ministre d'Ardennes décédé, vous voyez, ben vous voyez le fils, Vous voyez le père? Physiquement, la gestuelle, le phrasé, les mots, c'est copier-coller. Et ça fait sourire, la preuve. Eh bien, on peut garder l'analogie pour nous-mêmes en rapport à la ressemblance que nous sommes supposés avoir avec notre père. Nous devrions ressembler à notre père, à Jésus ou à notre grand frère. Il est étonnant de relever, et je conclurai par ça, que chez Jacques, et c'est là que je viens avec mon deuxième point, la sagesse fonctionne comme l'Esprit Saint chez Paul. Parce qu'on parle des mêmes fruits. Dans Jacques, la sagesse aide à tenir bon dans l'épreuve, c'est le début de son chapitre 1, rappelez-vous. Elle délivre des œuvres de la chair, de la convoitise, c'est exactement ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Galates. Et produit, la sagesse et l'Esprit Saint, produit le fruit de la vie chrétienne. À Galates 5, 22, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Alors Jacques ne parle pas du Saint-Esprit dans son Épître, mais lui substitue la sagesse. Comme tout à l'heure, la sagesse au Christ. Cela ne veut bien entendu pas dire que Jacques ne croyait pas en l'Esprit Saint. Paul sera l'apôtre de l'Esprit, Jacques, l'ancien, fidèle. Pardon, Jacques. L'ancien d'église fidèle et puissant aux Anciens Testaments et du judaïsme de son temps. Alors j'ai fait ce tableau comparatif entre le sermon sur la montagne, la sagesse dans Jacques et le fruit de l'esprit en Paul. C'est tout de même clair, me semble-t-il. Alors, bien entendu, Paul, il en rajoute d'autres, mais on pourrait le mettre du côté. Bon, Paul, il met l'amour en premier. Bah, ça, c'est clair que Jésus ne dit pas amour, le terme amour dans le sermon, mais c'est quelqu'un qui se conduit comme selon les béatitudes, qui produit les béatitudes. Bah, c'est un homme qui aime, ou une femme qui aime, évidemment. Je termine. Pour atteindre la justice, ce que Jacques appelle la justice, pour se savoir profondément justifié, pour atteindre la maturité spirituelle, la sainteté dans la pratique. Parce que connaître les fruits de l'esprit, moi je les connais par cœur, c'est bien. Les vivre et les produire, c'est mieux. Maturité, sainteté pratique, c'est ce à quoi nous appelle Jacques. Eh bien, il nous dit qu'un chrétien doit veiller d'abord sur sa langue. Car des paroles engageantes qui apportent quelque chose de positif à l'autre, d'édifiant à l'autre, proviennent d'un esprit sage. Une langue maîtrisée, dit-il, n'est possible que si l'on cultive des pensées vertueuses. Une bouche débordante de louanges ne peut provenir que d'un cœur pur. On ne loue Dieu que si on a un cœur pur, normalement. Parce que Jacques, la semaine passée, rappelez-vous, nous avait dit qu'on peut bénir Dieu d'un côté et maudire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Jacques nous a donc encouragés jusqu'ici à supporter les épreuves avec confiance, parce qu'elles servent à quelque chose, à savoir fortifier notre foi et notre persévérance. Il nous encourage à servir avec compassion et à faire attention à nos paroles. Tout cela, c'est se comporter, dit-il, selon la sagesse de Dieu. Alors, un chrétien devrait être ce que Dieu veut qu'il soit. Faire ce que Dieu veut qu'il fasse et dire ce que Dieu veut qu'il dise. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.